semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 31 octobre, merci d'être au rendez-vous. 7 jours d'événements en une heure d'émission, c'est maintenant, grâce au reportage de la rédaction et à notre invité, le journaliste Sédi Kaba. Vous pouvez aussi écouter cette émission en ligne sur notre site RFI et la podcaster, bien sûr. Je vous signale déjà que demain, 17h10, heure de Paris, dans le magazine ID, nous parlerons de Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU, avec l'ambassadeur français Alain Dejamet, qui vient de lui consacrer un livre. Mais pour le moment, c'est donc une semaine d'actualité. Merci pour votre fidélité.
Une semaine d'actualité.
Dans un instant, nous partirons pour Téhéran. Après le flash tout à l'heure, destination l'Afrique, avec des escales en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville ou en Tanzanie, par exemple. Rendez-vous également avec vos messages. Bonjour, Sédi Kaba, notre complice, Sédi Kaba.
Bonjour, c'est toujours un immense plaisir de retrouver Pierre-Edouard Deldic et les auditeurs de Une semaine d'actualité.
Qui vous attendent, hein, quand on annonce votre venue, ils sont impatients. Alors, le journaliste Sédi Kaba de Monde Afrique, et aussi l'auteur, rappelons-le, on en a déjà parlé dans cette émission, mais un rappel ne fait jamais de mal, que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Le dernier en date est consacré à un certain Boubacar Ba, un personnage important.
Absolument, un personnage important, et c'est un livre très consensuel, puisque à la différence du précédent qui m'a valu beaucoup d'amis, oui. Celui-là est un livre sur Boubacar Ba, qui est un Nigérien emblématique, un intellectuel de haut niveau, qui avec le professeur Abdou Moumouni Diofo, dont l'université de Niamey porte le nom, et le professeur Aniko Dankolodo, est un des plus illustres Nigériens, qui est le premier Africain d'Afrique à entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui a été agrégé de mathématiques, qui a enseigné les mathématiques pendant 28 ans. C'est un personnage dont je souhaitais porter à la postérité le parcours pour que les jeunes Nigériens, au-delà des jeunes Nigériens, les jeunes Africains, puissent s'inspirer de ce qu'il a fait et cultiver l'excellence.
Livre édité chez L'Armatan, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans l'actualité cette semaine, qui vous a intrigué, inquiété ou réconforté, sait-on jamais ?
En tant que démocrate africain et en tant que panafricain qui espère l'évolution de la démocratie, les dernières consultations électorales en Afrique ne m'ont pas rassuré. Toutes ces victoires un peu avec des scores un peu soviétiques m'ont vraiment un peu intrigué et m'ont interpellé. Est-ce que par rapport aux années, au lendemain du discours de la Bolle, par rapport au lendemain des conférences nationales, on n'est pas en train de reculer sur le continent dans la démocratisation. Ça m'a interpellé et pendant plusieurs jours, je ne peux pas dire que j'ai pas totalement dormi, mais j'ai mal dormi.
Alors justement, c'est dit que partons en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a été réélu dimanche dès le premier tour avec 83,66% des voix, justement. Nous en reparlerons donc dans la seconde partie de l'émission, mais écoutons tout de suite ces Ivoiriens qui parlent de leurs attentes après cette élection.
La Côte d'Ivoire attend beaucoup plus de lui.
Notre condition de vie, là, c'est difficile. La vie est très chère.
On aimerait véritablement que le problème de l'emploi des jeunes soit beaucoup plus amplifié.
Pour ce nouveau mandat, il doit encore continuer ses mêmes travaux, mais redoubler plus de vigilance dans les activités de ses ministres et ses collaborateurs les plus proches, afin qu'on puisse bouter un peu loin ce fléau de corruption.
L'augmentation des salaires des fonctionnaires, là, c'est pas tout le monde qui a perçu ça. Nous autres, par exemple, là, nous, on n'a rien reçu. Hein. C'est le corps médical et puis enseignant. Bon, quand on dit ça, on a augmenté le salaire des gens, bon, c'est pas chose. Quand on veut augmenter, on augmente pour tout le monde. Pas pour un groupe et puis l'autre groupe est lésé, c'est pas bien.
Qu'il s'implique davantage dans la décrispation et que véritablement la réconciliation que lui-même prône commence à donner des fruits.
Sept jours dans le monde.
Alors partons maintenant pour les États-Unis. C'est dit qu'une chose est sûre, Barack Obama ne compte pas que des amis dans la police, une police dont les pratiques et le racisme, dans certains cas, suscitent un débat en Amérique. Pourtant, il a essayé de séduire leurs représentants réunis à Chicago cette semaine. Correspondance mardi d'Anne-Marie Capomaccio.
La mission de Barack Obama n'était pas facile hier à Chicago. Le président des États-Unis s'est exprimé devant un public loin d'être acquis. Des milliers de policiers américains, mis en accusation presque chaque jour par des vidéos virales montrant leur comportement violent. Des policiers qui rejettent les critiques et resserrent les rangs dans l'adversité. Barack Obama a renouvelé son soutien aux forces de l'ordre. Il a certes promis des fonds, des formations, des recrutements, mais ne pouvait éviter d'aborder la violence policière et les accusations de racisme, des sujets qui ont fait descendre des dizaines de milliers d'Américains dans les rues ces derniers mois.
Good community policing has to be a two-way street.
Une bonne police de proximité ne peut pas se mettre en place sans réciprocité. Les communautés qui ont désespérément besoin de maintien de l'ordre doivent accorder aux policiers le bénéfice du doute. Le revers de la médaille est que si un officier est raciste ou violent, ses supérieurs doivent être équitables et honnêtement reconnaître le problème.
Je me dois de vous dire la vérité, même si elle dérange. Je ne suis pas en campagne électorale, a poursuivi Barack Obama, sans doute conscient de la tiédeur de l'accueil et des applaudissements polis qui ont ponctué son intervention d'une heure devant les 14 000 responsables de la police américaine en pleine remise en question.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de notre ami et complice, le journaliste Sédic Abba de Monde Afrique, mondeafrique.com. Une réaction sur ce président des États-Unis qui est obligé en quelque sorte d'aller séduire la police américaine, dont une partie a un comportement, on le sait, pour le moins douteux.
Ça prouve quand même les niveaux d'exacerbation de cette question. Si le président des États-Unis en vient à s'en saisir, c'est qu'il y a un vrai problème. Et cet épisode où on voit un policier renverser une jeune élève dans sa classe a ému le monde entier.
On l'a vu ces derniers jours, c'est une des dernières en date.
Absolument, une des dernières vidéos. Il était donc, le président Obama était dans l'obligation d'en parler, y compris dans la posture qui est la sienne, qui n'est pas une posture facile, puisque lui-même est afro-américain. S'il prend parti pour la communauté afro-américaine, on dira qu'il a pris parti, il n'a pas été impartial. Donc, d'où le discours qu'il a tenu, et à mon avis, il était important qu'il interpelle la police sur son comportement. Mais il faut aller au-delà de ça, je pense. Par exemple, on a vu dans lors d'un de ces incidents, dans une ville à majorité afro-américaine, il n'y avait aucun policier afro-américain. Donc, il faut, dans la formation, mais aussi, il faut dans la composition de la police aussi qu'il y ait des choses. D'ailleurs, l'incident dont j'ai parlé, le FBI s'en est saisi et on verra ce que ça va donner. Et Obama a bien raison de dire que lui, il n'est pas en campagne, il n'a pas de mandat à espérer, il dit la vérité. Mais je pense que cette question, si on veut que l'Amérique donne le sentiment d'être un pays, une nation cohérente, il faut absolument résoudre ce problème de la violence policière, notamment à l'endroit des communautés afro-américaines.
Alors, Sadiq Abba, nous reparlerons donc tout à l'heure de la Côte d'Ivoire et du Niger également, le Niger face à Boko Haram, mais je voudrais qu'on s'arrête déjà un peu à Niamey pour évoquer votre précédent livre, parce que c'est l'écrivain aussi journaliste que j'invite dans cette émission, Sédic Abba, livre qui est publié aussi chez Armatan, qui s'intitule toujours d'ailleurs Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011, qui vous vaut quelques problèmes.
Non, absolument, il y a deux éléments du livre qui me valent encore des ennuis qui ne sont pas réglés, mais sur lesquels je suis totalement serein parce que je ne me reproche absolument rien. Il y a deux épisodes. Il y a le chapitre 5 dans lequel je parle de l'arrivée des forces françaises en Afrique, et il y a aussi les notes de renseignement que j'ai citées. Pour avoir cité ces notes de renseignement, peut-être que certains en sont venus à chercher à savoir d'où viennent ces notes, comment j'ai pu entrer en possession, alors que je l'ai fait à travers un travail journalistique sans être un pigiste des services nigériens, je puis me procurer de ces notes de renseignement. Et bon, beaucoup ont cherché à savoir l'origine de notes, l'origine de mes sources. Et comme je l'ai indiqué, moi, je suis absolument serein, je n'ai rien à me reprocher.
Et quand vous dites certains, c'est qui
C'est des institutions, je pense, y compris en France, parce que le livre est sorti en France. Et depuis que le livre est sorti, justement, des moyens techniques ont été utilisés pour savoir l'origine des notes que j'ai pu produire à la faveur d'écoutes téléphoniques, pour ne rien cacher.
Les moyens techniques,
c'est une écoute administrative qui a été branchée pour savoir qui m'a fourni ces informations, pour savoir si moi-même j'étais un pigiste des services nigériens, ce que je ne suis absolument pas, pour savoir d'où est-ce que j'ai obtenu ces informations. Comme je l'ai indiqué, c'est un travail journalistique, un travail d'investigation qui m'a permis d'écrire ce livre.
Mais j'imagine que vous avez les preuves de ces écoutes.
Ah oui, non, mais
qui dit écoute dit dit autorité française.
Ah oui, non, mais j'ai les preuves de ces écoutes. Le moment venu, puisque cette affaire ne peut pas s'achever comme ça, elle va être judiciarisée. Le moment venu, je fournirai l'ensemble de preuves. Vous savez, pour savoir si une personne est sur écoute ou non, il suffit simplement d'avoir une réquisition judiciaire et d'interroger l'opérateur pour lequel moi je suis sur Orange. Pour savoir si je suis sur écoute ou non et qui a commandé l'écoute, il suffit de demander à Orange, il suffit d'une réquisition, de demander à Orange. Orange dira qui m'a écouté et quels éléments ont été fournis pour obtenir cette écoute administrative.
Donc d'une semaine d'actualité, Sedi Kaba, on vous parle dans nos journaux de la conférence sur la Syrie à Vienne en présence de l'Iran. L'Iran qui est donc désormais en première ligne aux côtés de la Russie dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique et le soutien au régime en place de Bachar el-Assad. Nous l'avons déjà évoqué ces dernières semaines. Téhéran lundi, Sirwash Ghazi.
Plus de 15 Iraniens ont été tués en Syrie depuis début octobre, notamment plusieurs commandants des gardiens de la révolution. Le numéro 2 de l'armée d'élite du régime islamique, le général Hossein Salami, a ainsi reconnu que l'Iran avait augmenté ces derniers mois le nombre de ses conseillers militaires pour aider l'armée syrienne à se réorganiser. Il a également affirmé que des militaires iraniens étaient présents sur le terrain des opérations pour donner des conseils aux commandants de l'armée syrienne. En revanche, Téhéran dément la présence de troupes sur le terrain, mais reconnaît que des volontaires iraniens, mais aussi afghans, irakiens et pakistanais, se battent contre les djihadistes Daesh et les autres groupes armés en Syrie. Si nous ne combattons pas les terroristes en Syrie, demain, nous serons obligés de les confronter ailleurs, a déclaré le général Salami. De plus en plus, certains responsables iraniens parlent d'une guerre au niveau de toute la région pour combattre les groupes de Daesh et d'Al-Qaïda, présents non seulement en Syrie, mais également en Irak et en Afghanistan, deux pays frontaliers avec l'Iran. Ce qui explique que Téhéran ait salué l'intervention de la Russie en Syrie pour combattre les groupes armés.
Suite d'une semaine d'actualité en Turquie, cette fois où le pouvoir a durci son contrôle sur les médias avant les élections législatives anticipées de ce dimanche. Nouvel exemple cette semaine et correspondance de Jérôme Bastion, mercredi.
Après le verrouillage des réseaux sociaux, après les innombrables emprisonnements et procès pour insultes au président, après la fermeture des sites d'information de gauche et kurdes, après la répression systématique de toute forme de manifestation depuis plusieurs années, l'assaut de la police pour couper la diffusion de deux télévisions d'opposition marque un nouveau coup dur pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Dans un rare élan d'œcuménisme, journalistes et politiciens de tous bords ont accouru aussi spontanément que sincèrement pour soutenir le groupe Cosa IPEC, qui n'était pourtant ni un parangon d'éthique journalistique, ni un courant politique particulièrement fréquentable aux yeux de ses défenseurs de dernière minute. Car chacun sent bien que l'heure est grave désormais au pays d'Erdogan, et si Human Rights Watch n'hésite pas à comparer les récents événements à la période du coup d'état militaire de 1980, personne ne trouve ici cette évocation exagérée. Les promesses du député AKP Aydın Ünal de s'occuper ensuite des autres journaux d'opposition, comme Cumhuriyet, Zaman ou Hürriyet, ne sont en effet pas pour rassurer, bien au-delà de la seule liberté de s'informer. Car la presse, une fois totalement muselée, il ne restera plus guère de garde-fou face aux dérives totalitaires du système Erdogan.
Suite d'une semaine dans le monde, dans l'Union européenne, cette fois, Sedi Kaba en crise face au flot continu de réfugiés sur son sol. Nous avons parlé de cet afflux en Slovénie samedi dernier. Et voilà que face à celui-ci, l'Autriche songe elle aussi à ériger un mur, pardon, une barrière, une clôture. Vienne jeudi, Christian Filitz.
Dans leur déclaration, les dirigeants autrichiens évitent le terme de clôture. Selon le chancelier Faymann, une barrière a aussi une porte et il faut régler le flux de migrants. Pas question de fermer la frontière. Pour l'heure, on ignore quelle forme ces équipements de sécurité technique, ce sont les termes utilisés officiellement, prendront. La topographie de la région est marquée par des collines où le tracé de la frontière suit parfois d'étroits sentiers entre forêts et vignobles. En fait, il s'agirait de barrières de 30 km de part et d'autre du poste frontalier par où transitent chaque jour entre 3000 et 8000 migrants, voire plus. La ministre de l'Intérieur, Johanna Mikl-Leitner, du Parti conservateur, qui s'est rendue sur place mardi, vient vient de réclamer dans un quotidien allemand la construction d'une forteresse Europe. Hier soir, le chancelier social-démocrate Faymann a téléphoné avec Jean-Claude Juncker. Tous deux sont d'accord qu'il n'y a pas de place pour des clôtures en Europe.
À noter également dans l'actualité internationale, la fin de l'enfant unique en Chine. Les couples pourront désormais avoir un second enfant. Donc, c'est aussi un tremblement de terre au Pakistan et en Afghanistan. Il y a des centaines de victimes et les élections présidentielles et législatives en Haïti résultant dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Cédric Abba du site Monde Afrique, Forteresse Europe, on en est là?
Oui, il y a aujourd'hui la tentation de vouloir ériger des barrières partout, des murs pour faire de l'Europe une sorte de citadelle imprenable pour les migrants. Mais je pense que c'est une démarche totalement erronée. Comme l'avait dit le président Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal en 1974, déjà, on ne règle pas les problèmes de développement lorsqu'on ne règle pas la résurgence des conflits comme on le vit en Syrie et ailleurs. Je crois qu'il y a une démarche totalement erronée du flux migratoire parce que c'est un problème global. Il y a les pays de départ, il y a les pays de transit, il y a les pays d'arrivée. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est au niveau européen seulement que l'on envisage le problème, alors qu'il faut envisager une solution globale à un problème global.
Un mot sur la Turquie, Sédic Abba, il ne fait pas bon être journaliste aujourd'hui à Istanbul ou ailleurs. Hein.
Et d'ailleurs, il faut souligner que les journalistes sont le troisième palier. Il y a eu d'abord la police, il y a eu la justice. Oui. Vous vous souvenez de toutes ces affaires-là dans lesquelles le clan Erdogan a été mis en cause et qu'on a étouffé en mettant en prison des policiers, qui étaient chargés de l'enquête, en mettant en prison des magistrats. Et là, on s'en prend au dernier pilier de la démocratie qui est la liberté de la presse. Et je pense que aujourd'hui, le régime Erdogan, qui avait pourtant réussi à mettre la Turquie sur la scène internationale, est complètement en train de se discréditer à la veille de cette élection. Et il n'avait pas obtenu la majorité absolue lors du précédent scrutin. J'ai bien peur qu'à l'occasion de la prochaine consultation que ce parti recule encore.
Et il y a aussi le rôle de l'Iran en Syrie, rôle diplomatique, on l'a vu avec la conférence à Vienne ces dernières heures, et on le voit aussi, comme on dit, sur le terrain, sur le champ de bataille.
Absolument, absolument. L'Iran s'est engagé, on parle de 10 000 à 15 000 militaires que l'Iran a envoyés sur le terrain, et je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui l'association, l'implication de l'Iran à la recherche d'une solution diplomatique. Il n'y a pas longtemps, il n'était pas question, l'Iran était en train de se battre sur son propre sort avec les négociations sur le nucléaire iranien. L'Iran ayant réglé cela, aujourd'hui est devenu un acteur important et l'Iran a été invité à Vienne à la table des négociations en tant qu'acteur majeur de la résolution de ce problème-là. Moi, je continue à penser personnellement qu'en Syrie, la solution sera véritablement, elle sera indiscutablement une solution politique puisque sur le plan militaire, on n'a pas réussi à prendre le dessus sur le régime de Bachar al-Assad.
Alors, dans l'actualité, cette semaine, il y a aussi en Europe, l'Union européenne qui a assoupli à la demande de l'industrie automobile et de certains États, dont la France, les limites d'émissions de diesel des voitures en pleine affaire Volkswagen. Donc plus de pollution au diesel à venir. Rappelons que la France organise une réunion mondiale sur l'environnement en décembre. Hein.
J'allais souligner ce paradoxe, vous me l'avez arraché.
Il était trop beau ce paradoxe, on n'a pas le souligné.
Bien sûr, la France est aujourd'hui en train de se mobiliser, d'utiliser l'énergie du désespoir pour garantir le succès de la conférence de Paris, la COP21 pour prendre cette expression, et paradoxalement on ne comprend pas qu'elle s'associe à une démarche qui vise justement à encourager les effets du changement climatique parce que l'émission de diesel est une entorse à la préservation du changement climatique. Donc il y a là une façon de la nuit de défendre des intérêts économiques et le jour de défendre des intérêts climatiques. Je trouve que c'est totalement incohérent et lorsqu'on a ce type d'attitude, on ne pourrait pas trouver des arguments pour convaincre des pays qui sont déjà réticents à prendre des engagements pour la réduction des effets du changement climatique. Et ça,
surtout qu'aujourd'hui, au jour où nous parlons, c'est dit que tous les pays n'ont pas pris des engagements dans la perspective de cette réunion.
Tous les pays n'ont pas pris. Et le risque, c'est que même les pays qui ont pris des engagements, il y a aujourd'hui un véritable débat sur la nature, sur le caractère contraignant. Mm-hmm. Beaucoup de pays ne veulent pas que l'accord soit contraignant. Ils veulent qu'on s'appuie sur la bonne volonté. Or, on le voit tous les jours.
toutes ces inondations qu'il y a de par le monde, tout ce qui se passe dans le Sahel où les gens ne peuvent plus vivre parce qu'il fait 50 degrés au soleil, tous ces défis-là sont là, mais on n'a pas l'impression que les gouvernants ont conscience du danger qui nous guette. La planète risque d'être inhabitable si on ne change pas d'attitude. Aujourd'hui, l'urgence est déclarée. Pour moi, l'urgence est déjà là. Il faut agir maintenant, ici et maintenant, parce que sinon, on en sera à regretter de n'avoir pas pris les bonnes décisions.
Kassadi Kaba, nous allons marquer une pause pour écouter quelques nouvelles de ces dernières heures et on se retrouve, comme d'habitude, dans 3 grosses minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec la rédaction et notre invité.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Beldic.
Notre invité, le journaliste Sedi Kaba, rédacteur en chef à Monde Afrique et auteur également de quelques livres, entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel, chez l'Harmattan, c'est le dernier en date, et un livre qui fait donc polémique, on en a dit un mot tout à l'heure, Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes, 2010-2011 également, chez l'Harmattan. Dans quelques minutes, nous partirons pour la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie par exemple, mais pour le moment, Sedi, faisons une pause en France, qui a connu une baisse significative du nombre de ces chômeurs en septembre, en partie grâce à ce que l'on appelle les emplois aidés, subventionnés par l'argent public, donc Francine Quentin.
Après avoir atteint un record en août, le chômage a reculé de 0,7% en septembre pour les salariés sans aucune activité. Ils sont 23 800 de moins qu'en août et leur nombre atteint 3 547 800. Cette embellie concerne surtout les moins de 25 ans, mais pas du tout les plus de 50 ans. En revanche, le chômage continue à augmenter pour les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité même réduite. Au total, le nombre des inscrits à Pôle emploi est donc stable en septembre par rapport à août. L'amélioration pour les chômeurs sans aucune activité est peut-être le signe que les clignotants qui repassent progressivement au vert pour la croissance, le moral des chefs d'entreprise, l'accélération des emplois en intérim et des contrats d'embauche vont enfin aussi se manifester dans le secteur de l'emploi. C'est en tout cas ce que relève la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Quant aux mesures annoncées à la conférence sociale et la réforme du Code du travail, dont l'objectif est de favoriser l'emploi, elles ne feront pas sentir leurs effets avant 2016.
Mardi, RFI vous a proposé quelques émissions en direct de Bondy à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de deux jeunes, Zied et Bouna, morts dans un transformateur électrique alors qu'ils étaient pourchassés par la police. À l'occasion de cette journée, l'émission Mardi Politique avait pour invité Manuel Valls sur place, le Premier ministre, qui a notamment parlé des prochaines élections régionales. On l'écoute.
Chacun doit prendre conscience, dans les deux régions que vous avez citées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, que plus la gauche est haute, plus elle est forte au premier tour, plus les chances de l'emporter au deuxième tour sont là pour empêcher, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la victoire du Front National. Ça, c'est la première condition. Et il faut mener campagne. Et moi, je m'engagerai dans la campagne. Deuxièmement, je l'ai dit aussi clairement, il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Tout devra être fait pour l'empêcher. Donc je vous donne rendez-vous le soir du premier tour.
L'actualité française, c'est aussi la fuite de deux pilotes jugés en appel en République dominicaine pour un trafic de drogue présumé lors d'un vol privé transportant de la cocaïne. Les deux hommes ont gagné la France dans des circonstances plus ou moins mystérieuses. Ils se sont déclarés à la disposition de la justice. Encore un anniversaire, Sedi Kaba, il jalonne l'actualité désormais, vous le savez. Il s'agit cette fois du 50e anniversaire de l'arrestation en plein Paris de Mehdi Ben Barka, le leader de la gauche marocaine à l'époque. On ne sait toujours pas dans quelles conditions a été tué cet opposant au régime marocain, dont on n'a jamais d'ailleurs retrouvé le corps. Pour le savoir, il ne faut toujours pas compter sur l'aide de Paris et de Rabat. Marie-Pierre Olfan.
C'est aujourd'hui le juge français Cyril Paco qui est en charge de l'enquête, mais il se heurte pour l'instant au même blocage que ceux auxquels avait été confronté son prédécesseur, le juge Ramael. Depuis 2003, Rabat refuse en effet d'exécuter la commission rogatoire internationale qui vise à entendre plusieurs responsables marocains. De son côté, Paris refuse toujours de lever le secret défense sur la totalité des documents relatifs à l'affaire. En février 1966, le général de Gaulle avait qualifié l'implication française dans le dossier de vulgaire et subalterne. Mais 50 ans après, les faits contredisent encore ses propos. On ne sait toujours pas dans quelles conditions Mehdi Ben Barka a été tué, ni où se trouve son corps, même si l'implication d'agents secrets français et marocains, de truands, mais aussi de personnalités au plus haut niveau, ne fait plus de doute aux yeux de la justice. L'avocat de la famille Ben Barka reste optimiste. Maurice Butin espère notamment que les archives de la CIA, qui contiennent 1800 documents sur l'affaire, seront un jour ouvertes. Il compte aussi sur la commission rogatoire lancée à Tel Aviv pour entendre l'agent du Mossad qui affirme que les services israéliens ont joué un rôle logistique dans l'affaire. Il y a urgence, souligne Maître Butin, car certains témoins que la justice cherche à interroger sont déjà morts. L'un d'eux est décédé il y a quelques jours à peine.
Alors on va commencer avec ça, avec cette affaire Ben Barka, 1965, cette disparition en plein à Paris et toujours le mystère.
Oui, toujours le mystère.
Là, on a du mal à comprendre pourquoi le mystère demeure d'ailleurs.
Les mystères demeurent parce que l'État français ne veut pas assumer sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Or,
Et les Marocains aussi, tout à fait.
Je crois que l'État français se grandirait, le Maroc aussi se grandirait, de dire toute la vérité pour permettre à la famille de Ben Barka de faire son deuil. Faute de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, la famille n'a pas totalement fait son deuil. Donc, il faut, 50 ans après, il faut dire toute la vérité, il faut relever le secret défense, à la fois côté français et côté marocain, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Puisque Ben Barka a été enlevé à la librairie Lip au quartier Saint-Germain, qui est en plein Paris. Donc il faut, de mon point de vue, pour pouvoir faire la leçon demain. Pour moi, aujourd'hui, si la France hésite à faire la lumière sur un certain nombre d'affaires au nom du secret défense, elle sera mal placée demain pour faire la leçon à d'autres aussi ailleurs dans le monde, notamment sur moi, en Afrique. Si elle veut faire la leçon de démocratie aux gens, il faut que elle laisse la justice passer, que les choses se passent. S'agissant maintenant du chômage, baisse importante en septembre qui réjouit le président Hollande, puisque comme vous savez, Hollande a dit que la condition pour qu'il se représente en 2017, c'est la baisse du chômage. Donc, on va voir d'ici là comment les choses vont se faire en 2017, parce que le président Hollande a clairement conditionné, il a redit encore sa candidature à la baisse du chômage. Donc, aujourd'hui, je pense que on boit du petit lait à l'Élysée, puisque le taux de chômage a baissé, même si vous l'avez si bien rappelé, et que c'est avec des emplois aidés que le chômage a baissé.
Sept jours en Afrique.
Alassane Ouattara, 2 118 229, soit 83,66%.
Alors revenons sur la victoire au premier tour d'Alassane Ouattara, l'élection présidentielle ivoirienne. C'est dit qu'une victoire et des défis à relever. Isidore Kouadio à Abidjan.
Au lendemain de sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara doit se tenir prêt à faire face aux nombreuses attentes des Ivoiriens. Car si sur le plan économique, le président ivoirien a mené un travail important, il existe des chantiers sur lesquels il sera beaucoup attendu. Dans un premier temps, le chef de l'État devra se pencher sur l'épineuse question de la réconciliation. Il est d'ailleurs beaucoup critiqué de ne pas faire assez d'efforts pour rassembler les Ivoiriens. L'opposition l'accuse d'appliquer une justice partiale qui ne favorise pas le rapprochement entre les fils de la Côte d'Ivoire. L'autre terrain sur lequel il devra s'investir, c'est la transparence dans la gestion des affaires de l'État en vue de lutter plus efficacement contre la corruption. Là-dessus, Alassane Ouattara a promis être plus sévère. Les chantiers sont nombreux. Toutefois, le président ivoirien a en effet annoncé quelques couleurs de cette nouvelle mandature, notamment un changement de constitution dès l'année prochaine après la tenue d'un référendum. La population, elle, espère pouvoir ressentir les effets de la croissance économique du pays un peu plus dans leur quotidien.
Alors, c'est dit que c'est le moment de parler de cette élection triomphale.
Avec un score
impressionnant.
Oui, en fait, le président Ouattara avait verrouillé l'élection en amont. Comme vous savez, l'élément de comparaison, c'est l'élection de 2010. En 2010, il y avait une affiche alléchante, pour parler comme dans le langage du cinéma. Il y avait le président Alassane Ouattara, l'actuel président, l'ancien président Laurent Gbagbo et Harry Konan Bédié qui formaient le podium. Et c'est entre eux que se jouait cette élection. Cette fois, il n'y avait pas dans le camp d'en face des candidatures importantes, puisque le président Ouattara a convaincu le PDCI de ne pas avoir un candidat. Le PDCI, qui est quand même le parti historique, le parti unique, le parti de Houphouët-Boigny, n'a pas présenté de candidat contre Ouattara, ce qui a augmenté son capital de chance. Et en face également, le FPI était un FPI totalement divisé entre l'aile de Afin Guessant et l'aile fidèle au président Gbagbo, qui est incarné par Abdourahmane Sangaré. Et si vous mettez ça à côté de l'absence des moyens pour les autres candidats, puisque comme vous savez, le président Ouattara a fait campagne avec hélicoptère, avec jet privé, alors que certains de ses adversaires marchaient à pied pour battre campagne. Donc les gens n'ont pas combattu avec les mêmes armes. Et on n'est pas surpris que le président soit passé au premier tour avec ce score-là. Et comme il a été dit dans l'élément, aujourd'hui, pour lui, le plus important, c'est l'après-élection, les défis qu'il attend.
Ah, c'est ce qu'a souligné Isidore Quadio.
Absolument, les défis qu'il attend. Et pour moi, le défi le plus important, c'est celui de la réconciliation nationale. Parce qu'on n'a pas l'impression que le premier mandat a servi à panser les plaies de la crise post-électorale. Donc, il faut que le président Ouattara s'investisse dans la réconciliation nationale pour panser toutes les plaies. Les blessures ne se sont pas cicatrisées. Il faut qu'il s'investisse. Et aussi, il faut qu'il s'investisse dans le défi du développement, à savoir, aujourd'hui, le taux de chômage qui est très élevé en Côte d'Ivoire et aussi le niveau élevé de pauvreté. 70% de la population, c'est énorme pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un problème de la redistribution de la croissance, puisque la Côte d'Ivoire affiche une croissance économique de 8 à 9% qu'on ne retrouve pas dans les assiettes. Donc, il faut tous ces défis-là, tous ces chantiers-là, que le président Ouattara s'y investisse avant la fin de son mandat.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler d'une autre élection dimanche dernier, Sadi Kaba. Autre résultat impressionnant, presque insolite. Plus de 92% des votants ont approuvé les modifications de la Constitution qui vont permettre au président Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat avec un taux de participation exceptionnel de 72%. Carole Balade.
Plus de 72% des électeurs se sont rendus aux urnes, affirmé hier matin le ministre de l'Intérieur congolais. Un chiffre qui satisfait le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala.
D'abord, une grande satisfaction pour la maturité du peuple congolais qui a montré sa volonté d'aller vers une évolution des institutions dans la paix.
Mais ce chiffre fait bondir Guy Romain Kinfoussia, porte-parole du FROCAD.
Quand j'entends le chiffre mirobolant de 72,44, c'est le délire. Je dis, les gens le prennent vraiment pour des idiots.
Même réaction de Crépin Gouala, lui aussi membre du FROCAD, qui renchérit.
Ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés parce que les gens ne sont pas allés voter.
Des accusations que rejette en bloc Pierre N'Golo, le secrétaire général du PCT.
On a manipulé nulle part, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à l'intérieur.
Avant de tendre la main à l'opposition.
Le référendum a eu lieu. Et nous sommes partisans du dialogue. Maintenant, on peut discuter d'autres choses.
Opposition qui la rejette par la voix de Mathias Zon, le chef de file de l'ARD.
C'est un coup d'État constitutionnel. Vous savez très bien comment on traite tous les coups d'État. On n'a pas discuté avec un putschiste.
Des positions qui semblent inconciliables. La France, quant à elle, estime dans un communiqué que les conditions dans lesquelles ce référendum a été préparé et organisé ne permettent pas d'en apprécier les résultats, notamment en termes de participation.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, mais nous allons partir pour l'Inde, c'est dit qu'à l'occasion du sommet qui a réuni dans ce pays les représentants du continent, 54 pays, un sommet qui s'est terminé donc par une déclaration ambitieuse, la déclaration de New Delhi, d'où nous a appelé jeudi Sébastien Farcy.
Les diplomates indiens définissent cette déclaration comme une pierre fondatrice. C'est en effet la première fois que les 54 pays africains se retrouvaient avec l'Inde et donc qu'un vrai dialogue interrégional pouvait avoir lieu. Le document touche à tous les aspects, depuis la coopération industrielle et agricole jusqu'à l'énergie et l'éducation, et oriente l'utilisation des 9 milliards d'euros de crédits accordés par New Delhi qui iront donc, selon un diplomate, à des projets d'infrastructure, d'électrification rurale et solaire ou à la construction de sucreries afin de mettre à profit les ressources agricoles en Afrique. Un nouveau domaine de coopération a émergé, l'économie bleue, ce qui comprend la pêcherie, les études maritimes communes, autant que la sécurité dans l'océan Indien. New Delhi continuera également à former les forces de maintien de la paix déployées en Afrique. Enfin, la déclaration lance un appel à une réforme profonde du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'y intégrer l'Inde et un pays africain comme membre permanent, deux blocs exclus de ce cercle du pouvoir alors qu'ils représentent à eux deux, un tiers de la population mondiale.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire quelques dédicaces, comme chaque semaine. Vous connaissez ce rendez-vous, Cédic. Et d'abord, bonjour à Clémentine, qui, après nous avoir écoutés en Guinée et au Gabon ces dernières années, nous suit désormais à Paris. Merci pour votre fidélité, Clémentine. Bonjour à Alpha Oumar, très critique à l'égard du personnel politique guinéen, à Siré, qui est pharmacien à Kaolack, au Sénégal, à Issouf, à Ouaigouya, au Burkina Faso. Bonjour à Baye Lahad, à Kidira, au Sénégal. Un salut à Mamadou Maximo, à Kati, au Mali, et à Moutari Maman Moussa, à Niamey. Et nous retrouvons Cédic Abba, notre ami Cédic Abba, journaliste et auteur notamment d'entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel. On en avait déjà parlé dans cette émission. Il nous faut revenir à l'actualité de la semaine, Cédic, le Congo-Brazzaville.
Le Congo-Brazzaville, où le référendum d'abord ne s'est pas passé, contrairement à ce qu'on a entendu, dans des conditions de sérénité, puisque il y a eu, avant le référendum, des violences politiques. Selon le chiffre, le pouvoir parle de 4 morts, l'opposition parle d'une 15aine de morts. En tout cas, c'est la preuve qu'il ne s'est pas déroulé dans des conditions d'une sérénité totale. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que le texte n'a pas été suffisamment vulgarisé. Beaucoup de gens se sont rendus aux urnes sans savoir le contenu du texte. Finalement, le référendum était une sorte de plébiscite pour ou contre Sassou Nguesso. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'organisation de ce référendum de dimanche ne règle pas le problème politique au Congo. C'est clair que aujourd'hui, en vertu de la nouvelle constitution, le président Sassou peut se présenter, mais l'opposition est toujours déterminée à l'empêcher de se présenter. Ça veut dire que la crise politique au Congo n'est pas totalement réglée et les risques d'une confrontation entre le camp présidentiel et son opposition est réel. Et ça ne peut qu'inquiéter, sachant que en 1997, le Congo quand même a vécu une guerre civile au terme sanglante, qui a fait des milliers de morts, au terme de laquelle le président Sassou s'est emparé du pouvoir et il y est depuis 1997.
Alors, c'est dit que dans le même ordre d'idées, il y a aussi le Rwanda. L'Assemblée nationale a adopté le projet de réforme de la Constitution taillé sur mesure pour Paul Kagame, qui pourra se représenter à la présidence et diriger le pays en théorie jusqu'à 2034.
C'est exact. Là aussi, le problème de fond, c'est celui de l'alternance au pouvoir en Afrique. Les gens ne conçoivent pas le pouvoir présidentiel, comme le mandat présidentiel, comme quelque chose qui doit prendre fin. Le président Obama, dont on parle, avant lui, le président Lula a quitté le pouvoir au Brésil alors qu'il était à un niveau de popularité de 75%. Mais il a estimé que, puisque son mandat est fini, qu'il peut être utile à son pays sans être président. Il faut qu'aussi en Afrique, parce que tout ce, que ça soit au Congo, au Brazzaville, au Burkina Faso, au Rwanda, au Congo d'en face, au Congo Kinshasa, tous ces cas posent des problèmes de l'alternance. Il faut que l'alternance devienne la règle. Il faut que les gens comprennent. Il faut que ceux qui postulent à la magistrature suprême et qui deviennent présidents comprennent qu'il y a une vie après le pouvoir. On ne peut pas avoir une exception africaine dans la conception et la gestion du pouvoir, et puis venir demain s'asseoir avec les gens, comme on l'a vu, demander une place au Conseil de sécurité. Ceux qui sont au Conseil de sécurité ont une pratique du pouvoir. Donc si on veut nous aussi nous asseoir au Conseil de sécurité, il faut qu'on ait la même pratique de pouvoir à la fin de son mandat, partir, et le pouvoir ne doit pas servir à enrichir sa famille ou son clan.
Sept jours en Afrique.
Suite d'une semaine d'actualité, nous continuons notre voyage, Cédic Abba, avec encore des résultats d'élections présidentielles en Tanzanie. Cette fois, résultats pour le moins contestés, là aussi, Dar es Salaam jeudi, Bruno Minas.
Le président de la commission électorale tanzanienne, le juge Damian Rubuva, a passé des jours à égrener inlassablement devant la presse et en direct à la télévision des milliers de résultats de différentes régions avant d'arriver enfin à cette conclusion. John Magufuli a obtenu le plus de voix et conformément à la loi électorale de notre pays et les résultats du scrutin, je proclame Monsieur Magufuli président de la République de Tanzanie.
Guinéens.
Moins d'un quart d'heure avant cette annonce, l'adversaire de John Magufuli, Edward Lowassa, d'apparence encore plus fatigué, annonçait un résultat complètement contraire. Je déclare que j'ai obtenu 10 600 000 voix, ce qui fait 62% des suffrages exprimés dans tous les bureaux de vote du pays. Je demande à la commission électorale de me proclamer vainqueur de cette élection. S'agit-il d'une ultime bravade ou bien Lowassa ira-t-il plus loin? C'est la question du jour. Pendant la campagne, il avait dit qu'il entrerait à la présidence par la fenêtre s'il le fallait.
Alors à suivre évidemment dans nos journaux. Suite et fin d'une semaine d'actualité avec une dernière étape dans un pays que vous connaissez fort bien, c'est Dikaba, le Niger, où 13 villageois ont été tués dans la région de Diffa. Olivier Roger.
La localité de Hala est située à une trentaine de kilomètres de Diffa sur la rivière qui sépare le Niger et le Nigeria. Les assaillants, membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, n'ont eu qu'à franchir le cours d'eau pour venir attaquer le village. 13 personnes ont été abattues par balles, précise le gouvernorat de Diffa, qui dément que des villageois aient été égorgés. 3 autres personnes ont été blessées et plusieurs concessions pillées par les assaillants. Cette nouvelle attaque survient dans un climat de recrudescence des violences attribuées à Boko Haram dans cette région de Diffa. La grande ville du Sud a dû faire face ces dernières semaines à plusieurs tentatives d'attentats à la bombe. C'est dans ce contexte que les députés ont entériné hier une prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence. Alors que dans l'état de Borno, l'armée du Nigeria a intensifié ses opérations contre Boko Haram et redéployé ses effectifs à l'est et au sud de la capitale Maïdougouri, la bande frontalière avec le Niger est toujours aux mains de Boko Haram. L'armée nigérienne, déployée sur sa frontière, assume donc seule et avec difficulté la surveillance de cette bande territoriale qui s'étend jusqu'au lac Tchad.
Alors c'est dit qu'avant de partir au Niger, une escale en Tanzanie, là aussi c'est une émission spéciale résultats électoraux en quelque sorte, oui. Là aussi des résultats contestés et une présidentielle où 2 candidats revendiquent la victoire.
Il y avait beaucoup d'espoir sur cette élection en Tanzanie puisque le président sortant Jakaya Kikwete a décidé de respecter le terme de son mandat et de ne pas se présenter. On pensait que le scrutin allait se passer dans de bonnes conditions puisque en Afrique anglophone, il y a quand même une tradition d'alternance qui a commencé à s'installer au Ghana. On a vu avec la présidentielle au Nigeria de mars qui s'était relativement bien passée. On pensait que ça allait bien se passer en Tanzanie, mais là aussi il y a un problème dans l'organisation de cette élection et ça provoque cette difficulté aujourd'hui où on a 2 candidats qui revendiquent la victoire.
Alors l'actualité africaine, c'est aussi la suspension du procès d'Hissène Habré à Dakar pour permettre aux acteurs de ce procès de reprendre leur souffle. Un procès qui a l'air de se passer très bien quotidiennement, que vous suivez, j'imagine.
Un procès qui a quand même un caractère historique et pédagogique, puisque c'est la première fois qu'un chef d'État, un ancien chef d'État africain, est jugé en terre africaine. Le procès a une dimension symbolique très forte, pour les victimes aussi, pour les dirigeants du continent, qui doivent savoir que le fait d'être au pouvoir n'autorise pas tout. Tous les regards sont tournés vers ce procès, qui avait commencé avec quelques difficultés, mais qui évolue normalement.
Maintenant. Alors, terminons, Sédic, notre émission au Niger, votre pays de prédilection, et le Niger face à Boko Haram, seul d'ailleurs.
Oui, et la région de Diffa, c'est la région d'où je viens, et le village, mon village paternel. Donc c'est une actualité qui me touche personnellement. Comme il a été dit, je pense que le Niger fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a pour défendre sa frontière, mais comme du côté du Nigeria, toutes les dispositions n'ont pas été prises pour sécuriser, les gens de Boko Haram, ils font un raid sur le Niger, ils se replient au Nigeria, et le Niger, pour l'instant, ne peut pas les poursuivre jusqu'au Nigeria. Parce que le défi, c'est l'immensité de la frontière. Entre le Niger et le Nigeria, il y a au moins 1500 km de frontière. Donc, vous voyez, il faut des moyens immenses, des moyens techniques pour surveiller. Et comme les gens de Boko Haram opèrent par à coup, ils font un coup ici, ils se déplacent, il faut de la mobilité, et il faut des hélicoptères de combat, il faut des moyens nocturnes, des moyens de vision nocturne pour pouvoir agir efficacement contre cela. Et pour l'instant, on ne les a pas. Mais il y a un espoir, puisque l'armée américaine a décidé d'envoyer 300 hommes au Cameroun à côté. Les forces françaises de Barkhane ont un détachement qui fait du renseignement, une quinzaine à une vingtaine de personnes dans la région de Diffa. Si tout ça est suffisamment coordonné avec l'effort que fait le Niger, on arrivera sans doute à pouvoir juguler ce fléau qui aussi a une dimension économique, notamment à Diffa, parce que la région de Diffa est interconnectée avec le Nigeria. Donc, du fait de la présence de Boko Haram, Diffa est affectée sur le plan économique aujourd'hui. La pauvreté a augmenté dans la
zone parce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller au Nigeria faire le business.
Et c'est dans ce contexte, Sédhiou Kaba, que se prépare l'élection présidentielle de l'année prochaine.
À mesure que l'élection présidentielle approche, il y a de la crispation politique. Mais je pense que de part et d'autre, à la fois du côté du pouvoir et de l'opposition, il faut créer les conditions pour aller à un scrutin totalement apaisé. Parce que l'enjeu, c'est pas les hommes qu'on va élire. L'enjeu, c'est la consolidation de l'expérience démocratique du Niger. Et ce pays qui est confronté aux défis dont vous venez de parler, qui est confronté à d'autres défis, n'a pas besoin de nouvelles crises politiques. Il faut avoir la sagesse d'éviter que d'entraîner le pays dans une crise politique. Et quand je l'ai dit, je parle à la fois du pouvoir et de l'opposition.
Alors il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission en compagnie de Boubacar Ba, grand personnage qui va nous réconcilier avec l'humanité, si j'ose dire, après cette rafale de nouvelles plus ou moins bonnes. Boubacar Ba, dont le destin, dont la vie, en fait, met en valeur l'importance de l'éducation en Afrique. Puisqu'il a créé, on s'en souvient, il a créé des universités un petit peu partout.
Oui, absolument. Le Boubacar Ba, dont l'école, quand je raconte cette anecdote parce qu'elle est intéressante, quand je lui dis vous êtes nigérien, il me dit non, moi je suis aoéfien. C'est-à-dire que lui, il se projetait déjà dans le panafricanisme, dans
l'Afrique occidentale française
à l'époque, donc qui englobait le Niger actuel, le Sénégal, le Burkina, etc., le Bénin, tout ça. Et aujourd'hui, on est justement à la quête de cette dimension avec les organisations sous-régionales. Donc Boubacar Ba, lui, avait vu il y a 40 ans déjà cette dimension. Et pour lui, l'école est centrale. Et d'ailleurs, une des clés de la réussite de la transition tunisienne qui vient d'avoir le prix Nobel, c'est le niveau d'éducation de la Tunisie par rapport aux autres pays arabes, le niveau d'éducation, puisque la Tunisie affiche un taux de scolarité de presque 100%. Il faut avoir des gens éduqués pour qu'ils se soignent, il faut avoir des gens éduqués pour qu'ils puissent faire du business. Il faut donc l'éducation, c'est la clé du développement, et Boubacar Ba insiste beaucoup. Déjà, à l'époque, lui, il avait vu les problèmes des universités africaines. Il avait dit que les pays africains gagneraient à avoir des universités communes avec les moyens qu'ils ont. Aujourd'hui, chaque pays a son université. On voit que les universités ont les difficultés qu'elles ont.
Entretien donc avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel. C'est chez L'Armatan. Et j'ajoute aussi donc ce livre qui suscite une controverse. Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. 2010-2011 également chez L'Armatan. Merci, Sédhiou Kaba.
C'est un immense plaisir. C'est toujours un plaisir de venir à une semaine d'actualité.
Et c'est un plaisir de vous recevoir aussi. À bientôt donc. Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Un grand merci à Lola Roger. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, 16h10 temps universel, 17h10 à Paris. Nous parlerons de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali. Nous serons en compagnie du diplomate français Alain Dejamé, qui vient de lui consacrer un livre et une biographie passionnante. L'Égyptien Boutros-Ghali a la carrière riche de professeur, de journaliste et de diplomate, bien sûr, dans Idées demain. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.